commence ce journal avec une découverte inattendue publiée dans la revue Nature. Les cellules cancéreuses se propagent essentiellement durant le sommeil.
Alors c'est un processus qui s'appelle l'intravasation. C'est lorsque les cellules cancéreuses se détachent de la tumeur pour entrer dans la circulation sanguine. Une équipe de Zurich, en Suisse, a fait différents prélèvements, à différents moments de la journée ou de la nuit, chez 30 femmes atteintes d'un cancer du sein et sur des modèles de souris. Alors jusqu'à présent, on pensait que les cellules cancéreuses du sein se propageaient 24 heures sur 24. Ces chercheurs démontrent, sur les souris comme chez les patientes, que le taux de cellules cancéreuses circulantes dans le sang est variable en fonction des phases d'activité ou de repos, et qu'il y a une augmentation significative lors du sommeil. 78% des cellules cancéreuses circulantes provenaient des échantillons de nuit des patientes. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter de dormir. En revanche, cette découverte va avoir des conséquences sur la recherche en oncologie et sur nos stratégies thérapeutiques. Stéphanie Grandemange est professeure des universités à l'Université de Lorraine au laboratoire CRAN.
Il démontre par cette étude qu'il y a une augmentation du taux de cellules circulantes pendant les phases de repos, soit des patientes, soit des souris. Donc ce qui veut dire en fait pour eux, c'est qu'il y aurait donc une dépendance de ce que l'on appelle l'horloge circadienne, une dépendance de cette horloge dans la production de ces cellules circulantes et dans aussi le pouvoir de métastatique de ces cellules. Parce que c'est pas parce qu'une cellule cancéreuse est circulante qu'elle est forcément métastatique. Et là, ils arrivent à démontrer qu'il y a une augmentation du taux de cellules circulantes pendant la phase de repos et une augmentation aussi de leur pouvoir métastatique, c'est-à-dire leur capacité à aller proliférer ailleurs dans un autre organe. Ils font état de l'oscillation hormonale qui se joue pendant ces phases de repos et d'activité, puisqu'en fait, ils ont pu mettre en évidence qu'il y avait différents récepteurs hormonaux qui étaient exprimés au niveau de ces cellules cancéreuses circulantes. Et ils ont pu montrer que l'ajout des hormones qui vont pouvoir se fixer sur ces récepteurs perturbait cette balance de quantité de cellules circulantes et également sur leur pouvoir métastatique. Donc il y a une influence hormonale, voilà, ce qu'ils viennent vraiment démontrer. Alors après, que les hormones stimulent la prolifération des cellules cancéreuses, etc., c'est des choses qui sont assez bien connues, mais ça n'avait jamais été montré que les hormones allaient pouvoir affecter le taux de cellules circulantes ainsi que leur pouvoir métastatique. Et je pense qu'effectivement, ça soulève beaucoup de questions. La première chose qu'ils mettent en avant, c'est qu'il va falloir véritablement prendre en considération les moments où sont réalisés les prélèvements sanguins des patientes pour aller détecter ces cellules circulantes, puisqu'en fait, ils démontrent bien qu'en fonction de l'heure de prélèvement, il peut y avoir des variations. Donc ça, c'est le premier élément. Ils démontrent également par l'influence hormonale qu'il y a tout un tas de pistes encore qu'il faudrait aller explorer vis-à-vis de l'importance de ces hormones dans le pouvoir métastatique. Et puis, d'un point de vue thérapeutique, ils soulèvent la question dans leur conclusion, à savoir est-ce que les administrations thérapeutiques ne devraient pas être réalisées finalement dans des phases de repos pour qu'elles soient plus efficaces sur les cellules métastatiques.
Voilà, et si vous voulez retrouver l'étude publiée dans Nature, nous avons comme chaque jour publié le lien sur notre fil Twitter @lamethodefc ainsi que sur le site de l'émission franceculture.fr. Et on passe au bref. Selon une étude parue dans la revue Science, nous avons découvert la plus grosse bactérie au monde, Thio Margarita Magnifica.
Elle est si grande qu'on peut la voir à l'œil nu, sans microscope. Dans les mangroves de Guadeloupe, une équipe franco-américaine a découvert de longs filaments blancs d'environ 1 cm de long. Alors, vu leur taille, les chercheurs ont d'abord cru qu'il s'agissait d'eucaryotes. Mais les analyses par microscopie électronique et par séquençage génomique ont révélé qu'il s'agissait bien d'une magnifique mégabactérie avec une organisation membranaire complexe. Les bactéries mesurent environ 2 micromètres, soit 0,0002 cm. Donc en termes d'échelle, c'est comme si nous rencontrions un humain de la taille du mont Everest. Thio Margarita Magnifica rejoint donc le curieux bestiaire bactérien.
Selon une étude parue dans la revue Science Advances, des chercheurs ont fait jouer des chimpanzés à des jeux vidéo.
Et les chercheurs de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutive ont appris à 6 chimpanzés d'un zoo à se servir d'un écran tactile pour jouer à un jeu vidéo de réalité virtuelle. Un jeu dans lequel le singe doit se rendre jusqu'à un arbre pour cueillir un fruit. Alors lorsqu'il y parvenait, le singe était récompensé par un vrai fruit. Alors d'une part, les primates ont su se déplacer dans un environnement virtuel, et d'autre part, cette expérience permet aux chercheurs d'analyser les compétences en navigation des primates et à mieux comprendre comment ils se déplacent dans une jungle, même lorsqu'ils sont en captivité.
Et enfin, toujours dans la revue Science Advances, nous avons tendance à devenir amis avec des personnes qui partagent la même odeur que nous.
Et les mammifères terrestres que nous sommes se reniflent constamment. Alors, lors d'une nouvelle rencontre amicale, il nous arrive parfois d'avoir un coup de cœur immédiat et de nous sentir intimes depuis longtemps. Cela a peut-être quelque chose à voir avec nos odeurs corporelles. Une équipe israélienne a recruté 20 duos d'amis du même sexe et ils ont échantillonné leurs odeurs corporelles à l'aide d'un iNose, d'un nez électronique équipé de capteurs pour analyser la composition chimique. Les chercheurs montrent que les signatures olfactives d'amis sont statistiquement plus proches que les odeurs entre non-amis. Et selon les fragrances de chacun, nous pourrions même prédire ce lien affectif. Selon les auteurs, cette étude prouve qu'il y a bien de la chimie dans la chimie sociale.